France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. La vache et le prisonnier, un singe en hiver, mélodie en sous-sol, le clan des Siciliens ou I comme Icar, quelques titres de films réalisés par le cinéaste et scénariste Henri Verneuil, qui est aujourd'hui à l'honneur dans nos archives. En 1997, sur les ondes de France Musique, Henri Verneuil se confiait à Jacques Chancel pour évoquer ses liens avec la musique. Il sera question du compositeur Ennio Morricone, avec qui Henri Verneuil a beaucoup collaboré, mais aussi de la place de la musique au cinéma. Le cinéaste nous offre une programmation musicale très éclectique, de Vivaldi à Frank Sinatra, en passant par la bande originale du film Le Clan des Siciliens. Henri Verneuil était l'invité de Règles de Troyes, une émission un peu atypique de Radio France, dont France Culture, France Inter et France Musique se partageaient la diffusion. Au micro, Jacques Chancel.
Règles de Troyes, un programme Radio France. Règle de Troyes, le vendredi sur France Culture, le samedi sur France Inter, aujourd'hui dimanche sur France Musique. Notre invité, Henri Verneuil.
Thank you.
l'automne des quatre saisons de Vivaldi, l'orchestre Rimusicci, et je voudrais savoir Henri Verneuil ce qui a présidé à ce choix. Sûrement un souvenir.
C'est un souvenir très drôle. Il a disparu maintenant, mais c'était un médecin qui s'appelait le docteur Fouquet, ami de Jean Marais, mon ami, vraiment un médecin formidable, au diagnostic sûr, à l'ami plus que le médecin. Et il me racontait un jour, chez lui d'ailleurs, il m'a amené au fond de son appartement, il y avait une pièce, et un appareil de balétophone.
Et il me
disait, un électrophone. Et il me disait, tu vois Henri, quand une de mes clientes, parce qu'il y avait beaucoup de gens âgés qui venaient chez lui, quand une de mes clientes commence à me parler des trois couches de cellulite, des rhumatismes articulaires, qui paraît qu'elle en entend les bruits déjà, des crocs, hein, l'asthme en plus, et le soir, elle dort mal, elle dit, je vous demande pardon une seconde, madame. Je suis à vous tout de suite. Il sortait, il fermait la porte, il allait au fond de l'appartement qui était au fond du couloir. Il ouvrait cette pièce et il mettait les quatre saisons de Vivaldi. Et quand il avait fini, il me dit, il y avait une bouffée d'air frais que j'avais reçue. Je retournais voir mes rhumatismes et j'ai fait comme lui. Non pas que je soigne les rhumatismes, mais j'ai pris, et c'est vrai qu'il y a
un bain de jouvence.
Hein. Ah, c'est formidable. C'était ça, souvenir. Petit souvenir, mais drôle parce que je connaissais l'homme et je vois un médecin arrêter
sa consultation pour
aller écouter Vivaldi.
Henri Verneuil, le cinéaste que vous êtes, s'est fait romancier en publiant chez Plon ce livre, Le Cheval Vartan. Alors, on peut rappeler quelques-uns de vos films, parce que vous avez beaucoup donné au cinéma, La Vache et le Prisonnier, Un singe en hiver, Mélodie en sous-sol, Weekend à Zuidcote, Le clan des Siciliens, Peur sur la ville, Le serpent, Mayrig, qui est l'histoire de votre famille. Je voudrais savoir quelle importance vous accordez à la musique dans vos films.
Écoutez, j'ai toujours pensé qu'il y a quelque chose qui, je parle surtout dans certains films, où on veut faire croire, on veut avoir une crédibilité dans ce que vous racontez, j'ai toujours pensé que le support musical était quelque chose en réalité de pas très logique. Je prends un exemple. Nous sommes dans le désert. Un homme marche dans le sable, brûlé par le soleil, il tombe, il va mourir de soif, il n'y a rien à droite, rien à gauche, rien derrière et rien devant, si ce n'est le soleil qui tombe dessus. Il va mourir. Et à ce moment-là, vous avez 120 musiciens qui rentrent avec le thème dans la scène, et j'ai l'impression qu'ils n'auraient qu'à demander au premier violon une bouteille d'Évian, et ça va s'arranger. Mmh. Donc, cet apport, tout d'un coup, dans le silence, dans l'intime, me gêne. Bon, sauf quand on est avec des grands musiciens qui rentre dans le jeu, on s'en aperçoit même pas. Et petit à petit, ils ont un apport formidable. Et j'ai eu cette expérience par les grands que
vous avez choisis.
Que j'ai choisi.
Par exemple, dans Le Clan des Siciliens, c'était Ennio
Morricone. J'ai beaucoup fait de films avec Ennio Morricone qui avait renouvelé, qui avait apporté quelque chose de nouveau. Mais il faut dire la vérité sur la musique de film. En réalité, on donne le scénario au compositeur, et bien sûr, il sait ce qu'on est en train de tourner. De temps en temps, il vient même vous voir tourner.
Oui.
Quand le film est terminé, le premier montage, on lui montre le premier montage. Puis ensuite, on se met devant une moviola, une machine, où on peut arrêter la projection, et on dit, voilà, j'ai des idées que la musique commencerait à cette image, et elle se terminerait là. Ensuite, elle reprend là. Bon. Et le musicien se retire. Entre le moment où il s'est retiré pour écrire sa musique de film et le moment où il va enregistrer, c'est-à-dire qu'on a convoqué 80 musiciens ou 120 musiciens, les chœurs, il va enregistrer. Vous, metteur en scène, vous, l'auteur du film, vous ne savez rien. Sauf si vous avez demandé qu'on vous présente des thèmes.
Oui.
Et Morricone, à l'époque, donc, me présentait 3-4 thèmes. Il profitait d'un enregistrement de film qu'il avait, quand il lui restait 10 minutes, avec ses musiciens, il enregistrait, et il m'apportait les thèmes. Et dans Le Clan des Siciliens, il m'apporte 3 thèmes. On en écarte un, après les avoir écoutés plusieurs fois, et il restait 2 thèmes. L'un, un thème qui, tout à l'heure, on va l'entendre, vous verrez, c'est tant-tant-tant-tant, c'était formidable, mais il y en avait un autre, dans un autre style. Tu ra 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 ra. Je dis, Ennio, je ne sais pas, 10 fois je l'ai écouté, je ne sais pas. Les deux, il me dit, attends, tu vas voir. Et il m'en fait écouter un où il avait mixé, mélangé les deux thèmes. Oui. Et il y avait tant, 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 tu.
C'est celui que nous allons écouter maintenant. C'est,
voilà.
Le Clan des Siciliens. Ennio Morricone a eu l'intelligence d'associer les deux thèmes.
Oui.
Et vous étiez séduit, vous, Henri Verneuil, de cette collaboration? Est-ce que ça correspondait totalement à votre œuvre, c'est-à-dire au Clan des Siciliens?
Absolument.
C'était le climat?
Absolument. Jusqu'au jour où nous sommes restés très très amis, on s'aime beaucoup. Dès qu'il vient en France, il vient me voir, et moi en Italie. Mais j'ai un peu cessé de travailler avec Ennio, car Ennio est arrivé, Morricone est arrivé à une telle notoriété qu'il ne joue plus ses thèmes avant. Parce que là, il me proposait le thème.
Oui.
J'aurais pu refuser, il aurait fait trois autres thèmes. Il ne présente plus. Et je le comprends. Il est Monsieur Ennio Morricone maintenant. Vous me demandez de faire la musique de votre film. Je fais la musique de mon film. Et pour la première fois, vous l'écouterez quand je lèverai la baguette et que les 120 musiciens enregistreront. Et à ce moment-là, vous êtes devant le fait accompli. Parce qu'il a beau être génial, ça colle avec votre film ou ça colle pas. Voilà.
Mais vous n'avez jamais emprunté, vous, Henri Verneuil, au répertoire classique, ce qu'a fait, par exemple, Luchino Visconti, rappelons-nous, Mort à Venise,
non, pas dans
l'Adagietto de la cinquième
enfin,
de Mahler.
Bon, dans Maïric, je prends une très vieille air arménienne, mais oui. Arrangée par
Jean-Claude Petit.
Jean-Claude Petit, qui en a fait un morceau formidable. Bon. Mais en réalité, non. Non, pas de. J'ai pas emprunté à. J'ai travaillé avec les plus grands, avec Delru, j'ai travaillé avec. Dans Week-end à Zuidcote, Maurice Jarre.
Maurice Jarre.
J'ai travaillé avec. Francis Lay dans Le Cordon. Non, j'ai eu les plus grands.
Comme Fellini travaillait avec Nina Rota.
J'ai travaillé avec Nina Rota, le boulanger de Valorque. J'ai fait le boulanger de Valorque et Fernandel avec Nina Rota, qui est un génie. C'est un génie, Nina Rota.
Dans Henri Verneuil, là encore, Morricone, et cette fois-ci, vous avez choisi la musique de
Il était une fois dans l'Ouest. Pourquoi ? Parce que c'est une des grandes musiques de film, une des plus grandes musiques de film, où il y a une voix qui joue le rôle d'un instrument. Et Morricone, on peut dire deux mots sur Morricone, c'était un homme très curieux. Quand on le voit, on dirait pas que c'était le grand compositeur, rien, il est là dans un coin comme ça. Et je me souviens de cette dédicace qu'avait fait mon ami Sergio Leone sur la musique de « Il était une fois dans l'Ouest ». Il avait dit « Mon cher Ennio », il avait écrit « Mon cher Ennio, quand nous étions sur les bancs de l'école, que je te parlais de cinéma, tu dormais. Quand plus tard j'ai fait du cinéma, je t'ai lu mon scénario, tu dormais. Quand j'ai fini le film, que je t'ai montré le film en double bande, tu dormais. Alors quand trouves-tu le temps de me faire cette musique sublime ?
Il était une fois dans l'Ouest.
Thank you.
musique qui appartient déjà à l'histoire du cinéma. Il était une fois dans l'Ouest. Vous devez être jaloux, Henri Verneuil, que Ennio Morricone ait donné une musique comme celle-là à Sergio Leone.
Oui, mais Sergio Leone était mon meilleur ami. Et non, c'est jamais une seconde. On a... Parce que une musique comme ça dans un film, et vous savez qu'il
ça aide le film. Hein.
Ah, pff, et les gens ne savent pas, ils sont pas à le savoir, mais là puisqu'on en parle, on peut dévoiler ça. Sergio Leone avait fait enregistrer cette musique avant la fin, le tournage du film. Chose qui ne se fait jamais, c'est toujours
avant le tournage. Avant le tournage. Dont le compositeur n'avait pas vu le film.
Non, mais il connaissait la scène.
Il connaissait la scène.
Et après, avec des haut-parleurs, il envoyait cette musique sur le désert, et les trois au manteau long, les quatre au manteau long, vous savez, qui arrivent pour la scène de, ils avançaient sur ce rythme de la musique. Ce qui fait que la musique collait avec l'image complètement.
Et le plus difficile, c'est la mélodie, on s'aperçoit là, de ce qu'est un compositeur contemporain.
Vous avez entendu la voix féminine, là, qui tient la place d'un instrument. On a la chair de poule.
Alors, troisième exemple de musique de film, la bataille de Saint-Sébastien.
Il y a dans la bataille de Saint-Sébastien, enfin c'est la préférence de Ennio Morricone, il m'a dit c'est ce que j'ai écrit de mieux pour le cinéma, dans la partie où le cheval blanc sauvage, crinière au vent...
Les talons blancs.
Les talons blancs, dans les paysages du Mexique, est poursuivi par ceux qui vont attraper ce cheval qui lutte pour la liberté. Il a écrit ce morceau qui est de White Horse. La dernière image, c'est le lasso qui tombe sur le cheval.
Musique d'Ennio Morricone.
D'Ennio Morricone.
Trois exemples que vous avez souhaité donner, Henri Verneuil. Vous avez réalisé plus de 30 films, on pourrait dire.
35.
Vous avez eu tous les bonheurs au cinéma.
Oui. Grande aventure. Et le plus grand souvenir que je garde, c'est encore plus que les films que j'ai faits, ceux que j'ai avec qui j'ai vécu ces années. C'est-à-dire les auteurs les plus inoubliables. 3 films avec Henri Janson, 6 avec Michel Audiard, 1 avec Robert Merle, 1 avec Antoine Blondin, Henri Troyat. C'est fou ces gens.
Et puis les acteurs, la fréquentation des acteurs.
80 stars, c'est une belle aventure.
Quels sont pour vous les grands comédiens? Évidemment, vous allez me dire Gabin. Parce
inoubliable,
que
inoubliable.
Fernandel, Gabin.
Inoubliable, oui. Fonda.
Fonda, Henri Fonda.
Quand Fonda est rentré sur mon plateau, ça... Il se passe quelque chose.
Et Delon, Belmondo.
Bien sûr. Jean-Paul, oh là là.
Vous tourneriez avec qui aujourd'hui? Quel est l'acteur que vous engageriez?
Bien, écoutez, je vais vous répondre à ça. C'est que j'ai longtemps travaillé pour des acteurs. C'est-à-dire que j'ai écrit avec d'autres collaborateurs. Nous avons écrit des scénarios pour Gabin, pour Delon, pour Ventura Gabin.
Oui.
Mais aujourd'hui, j'écris d'abord, et puis je regarde qui pourrait interpréter ça. Et non pas, au départ, je vais écrire pour un tel.
Oui. Mais Richard Anconina, par exemple.
Ah, ben, il ne fait pas acteur, lui. Lui, c'est un... j'aime beaucoup ceux qui, dans la vie, ne font pas comédien. Vous savez, je parle en contradiction avec ces acteurs qui, dont la voix de violoncelle, n'est-ce pas, ça sent la, on entend l'acteur déjà. Ouais. Pas Anconi, non, Anconi, non, c'est monsieur tout le monde. Et grand acteur, voilà.
Jamais vous n'avez eu à être victime d'un lynchage. La critique a été dure pour vous à certains moments.
Pendant la période de la nouvelle vague qui est arrivée au pouvoir,
ouais.
Qu'on peut dire c'était un putsch, parce qu'ils ont enlevé tous les journalistes, ils ont placé leurs copains dans les journaux, et le seul but c'était nettoyer, lessiver ce qui était en place, et bon. Alors qu'ils n'avaient pas besoin de ça, il en est resté 3 ou 4 à la fin, et de toute façon, ils auraient eu une très belle carrière, ces 3 ou 4.
Vous voulez parler de François Truffaut, de Claude Chabrol?
Bien sûr, mais bien sûr, ils n'avaient pas besoin de lessiver quiconque, ouais. ils étaient là.
Mais bon. Vous avez souffert de ce moment-là?
Ah oui. Je peux vous citer quelque chose qui s'est passé avec vous, donc vous n'avez pas été, vous ne l'avez pas su. J'ai fait une émission avec vous, qui s'appelait à l'époque Radioscopie,
ouais.
Et j'avais lu sans commentaire la critique de M. Jean-Louis Bory, qui avait paru dans le Nouvel Observateur, sur le dernier tango à Paris, à l'époque. Et la seule lecture, simplement, avait fait rire les gens, parce que c'était ridicule comme critique. Ça a été terrible, le coup.
On vous en a voulu.
Ah, mais non seulement il m'en a voulu, mais il a monté une cabale avec tous les critiques, en téléphonant à tous les critiques, en demandant comme un devoir, et en posant comme un devoir à tous ses confrères de le soutenir dans cette épreuve. Mais quelle épreuve? J'avais simplement lu dans votre émission la critique que j'ai d'ailleurs.
Mais
là.
Il y avait un film à ce moment-là de vous?
Non, pas du tout. C'était
le personnage.
Oui, parce qu'on parlait, un peu de la critique. Oui. J'ai dit, écoutez, quand je lis ça, là, je viens de lire ça aujourd'hui, et j'ai lu le. Oui. Voilà.
C'est-à-dire, lui a fait de l'anti-Verneuil après.
Ah oui, mais alors ça a été affreux. Et la nouvelle vague, un petit peu aussi, c'était. La seule chose qui m'a soutenu, c'est que nous faisions pendant ce temps-là, il y avait 5 séances par jour dans nos villes, et on faisait 5 complets. Ça soutient quand même.
Vous n'avez jamais tourné avec Frank Sinatra, pourtant vous le choisissez.
Non, parce que je l'ai choisi parce que je trouve que. Je ne connais pas le compositeur de My Way, tout le monde connaît cette chanson, yeah. Qui a fait le tour du monde. Il n'y a pas un pays, il n'y a pas une star qui n'a pas chanté, comme d'habitude, la chanson.
C'est français, je crois que c'était Revaux et,
oui,
et Claude François.
Absolument, voilà. Et je trouvais que les paroles françaises, j'adore tellement la chanson que je peux me permettre de dire que je ne les trouvais pas bonnes, les paroles. Comme tous les matins, je me lève, il fait froid, tu dors, je n'en fais pas. Et la musique, je la trouvais formidable. Et voilà un type qui s'appelle Paul Anka, qui est un compositeur et chanteur très connu à l'Amérique, vient en France, prend la musique, repart là-bas, et il réécrit les paroles. Et il se dit, je vais faire chanter cette chanson par Sinatra. Mais tu fais pas chanter une chanson par Sinatra comme ça. Monsieur Sinatra, c'est un monument. Il faut envahir d'abord le building, Sinatra. Et il arrive avec une chanson où il dit « Et maintenant, voici la fin. Le dernier rideau va tomber. Now, this is the end. » Et je vais vous dire, pendant toute cette vie, « I did it my way. » J'ai fait à ma façon. C'était le vieux chanteur, la vieille star qui arrivait et qui, avant le dernier rideau qui allait tomber, j'avais des frissons dans le dos.
Il y avait une histoire.
And now, this is the end. Ouh ! Ah là, il s'est passé. Et la même musique qui était formidable. Non. Alors, j'ai demandé cette chanson parce que c'est vraiment quelque chose de formidable.
My Way.
My Way.
Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not.
Verneuil, il y avait au départ comme d'habitude, puis il y a, eu My Way. Avec voilà, Frank Sinatra.
Voilà.
On ne rêve pas de temps en temps d'avoir des personnages comme cela, Frank Sinatra, De Niro, Dustin Hoffman, Al Pacino,
dans un film. Ils n'ont pas attendu.
Vous n'en rêvez pas. Mais imaginez quels personnages ils sont là-bas. Mais quand même, personnages, je ne dirais pas anciens.
Mais quand même
d'un autre cinéma.
Oui, mais alors moi, je suis obligé de penser aussi que, bien sûr, ils existent, ils sont là, et que c'est leur rêve, bon, de tourner. Mais il faut aussi vivre avec eux quand tu tournes.
C'est difficile.
Ah oui. Ce sont des personnages hors du commun, hors de la normale, ils sont hors de tout.
Mais Henri Verneuil, le cinéaste que vous êtes doit rêver de moments comme celui-là.
Moi, toute ma vie a été bernée par des moments. Parce que c'est vrai, quand on dit le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur? Ça ne va rien dire. Ce sont des moments de bonheur qu'on a. Et c'est quand on a additionné tous ces moments que tu peux dire, tiens, j'ai eu une vie. j'ai des moments de bonheur. C'est la rencontre de tel personnage avec tel personnage, telle scène dans Qui a tué Liberty Valance. C'est John Wayne qui se lève quand l'autre a fichu le steak par terre et il dit « That's my steak ». Et on sent que si le type ne ramasse pas le steak tout de suite, ça va... C'est des moments, des grands moments. Alors quand on ajoute tous ces moments, on dit, on est près du génie. C'est-à-dire des gens qui ont eu du génie de trouver ces moments.
Mais imaginons un film signé par vous, Henri Verneuil, et tout d'un coup dans ce film, il y a, parce que vous êtes dans un cabaret, My Way. Ça enlève le film, non?
Oh, il faut quand même en donner autre chose en plus. Mais, non, mais c'est vrai que ça... Ah oui, ça rattrape beaucoup de choses.
Alors maintenant, c'est un film de vous. C'est d'abord un livre de vous, Meyrig. C'est l'histoire de votre famille. C'est un prénom, Meyrig.
Comment Meyrig on prénom veut dire maman.
Maman, oui, c'est ça.
Meyrig.
Meyrig.
Voilà. Et j'avais pris donc Jean-Claude Petit pour faire la musique du film, qui m'avait une musique sublime. Et je lui avais simplement demandé de se servir du plus vieux thème arménien qui date, je ne sais plus, de 3000 ans, 4000 ans.
De Leyaman.
Et il a eu la grande idée de prendre l'air avec un instrument primitif, qui est le doudouk, c'est-à-dire une flûte très très primitive. Donc le premier thème est joué, de Meyrig, est joué par cet instrument primitif, et l'idée de l'intégration...
Du chant.
Vient de ce que tout d'un coup, à un moment donné, tout l'orchestre rentre, et le doudouk disparaît, c'est-à-dire que le vieux thème s'est modernisé dans l'Occident, voilà.
Et le chant, Sonia
Nigogosian, qui nous a chanté ça merveilleusement.
Henri Verneuil, la bande originale de votre film Merig, arrangement de Jean-Claude Petit, vieille chanson arménienne de Dele Yaman, et puis au chant, c'est cette voix, celle de Sonia Nigogossian. Et je crois que vous aviez pensé à Placido Domingo au départ.
Oui, mais je préfère, non pas, Placido est un très 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 grand ténor, c'est pas ça. Mais il était trop le grand ténor qui vient tout d'un coup dans le... Vous voyez,
il fallait que ce soit un peu plus anonyme.
Plus anonyme, voilà. Et plus anonyme, avec une superbe voix de Madame Nigogossian. Voilà, j'ai choisi ça comme ça.
On s'aperçoit que l'Arménie est toujours votre terre d'origine.
Absolument.
Vous ne la quittez pas.
Non, mais on en parlait.
Alors que vous êtes arrivé en France, vous aviez seulement 4 ans.
4 ans, oui, mais après, j'ai continué. Si à 4 ans... On vous met dans un autre milieu.
Oui.
Vous oubliez, parce que c'est pas quelque chose qui reste en vous parce que vous êtes né en Arménie. C'est parce qu'après, pendant 20 ans, moi, j'ai vécu chez moi. On parlait arménien, on mangeait arménien. Oui. Et longtemps, je vous ai parlé en français en pensant d'abord la phrase en arménien et en le traduisant en français. Maintenant, ça s'est arrangé. Quand...
Et cette Arménie qui revient dans votre roman, celui que vous publiez en ce moment chez Plon, qui revient, même si elle passe par cette histoire...
C'est une autre voie détournée de l'arménité, mais elle est là, et on retourne toujours à ses sources. Voilà.
Ouais. Parce que ce milliardaire que vous inventez, parti de rien, vous permet peut-être rendre hommage à votre pays.
Absolument.
Parce que vous êtes poursuivi par le génocide.
Oui, c'est quelque chose qui est la mémoire de tous ces morts sans sépulture. Il n'y a rien à faire, on n'efface pas ça.
Vous en voulez aux Turcs?
Oui. Ah oui, oh ben ça, non, surtout je leur en veux, parce que bon, tous les peuples ont eu une période noire dans leur histoire. Je leur en veux d'essayer de camoufler ça. Les Allemands ont parfaitement accepté qu'ils ont... Tous les peuples ont... La France a eu ses collaborateurs, bon, ben...
L'Allemagne a eu ses nazis. Estimez que les Turcs ne veulent pas reconnaître cet épisode de leur vie.
Voilà. Et alors, ils se battent en disant, si vous reconnaissez là, nous n'achèterons plus de Boeing chez vous, aux Américains. Et on n'achètera plus d'Airbus aux Français. Alors, ce sont des preuves historiques incontestables.
Alors maintenant, vous avez écarté Placido Domingo pour cette chanson, pour la musique de votre film, Eric.
Oui.
Mais là, vous pensez à un autre grand ténor, c'est Luciano Pavarotti.
Oui, parce que là, dans la Furtiva Lacrima de l'Élixir d'amour, c'est formidable. Là, Pavarotti est... Oh, dans bien d'autres choses aussi, il est formidable.
Luciano Pavarotti. Thank you. Forte et Lacrima, Elixir d'amour de Donizetti, Luciano Pavarotti. Vous êtes sensible, Henri Verneuil, aux grandes
voix.
Oui.
Là, il y a un timbre quand même très, très particulier. C'est dès que, à la troisième note, on sait que c'est lui qui chante. C'est formidable.
Mais vous n'avez jamais eu envie de mettre en scène un opéra. Lozé a fait Don Juan, Rossi a fait Carmen.
Je dois reconnaître que je n'aime pas à l'avance savoir que ça va être un échec, non pas parce que je vais mal le faire, c'est parce que les films d'opéra, statistiquement, ça ne marche pas. J'ai pas envie de raconter.
Non, Carmen a été un succès.
Oh, grande estime.
Non, même assez public, Don Juan de Lozé
restera.
Mais
Carmen, non. Attends, si, ça restera, mais ça n'a pas été. Et Carmen est très spécial. C'est le seul opéra peut-être qui peut.
Mais vous n'y avez pas pensé.
Non. Non. Et on en parlait justement avec celui qu'on va entendre maintenant, Alagna, qui aurait voulu qu'on tourne Faust.
Roberto Alagna.
Oui.
Vous avez contacté?
Non. On était parce que son représentant est Levon Sayan.
Oui.
Que vous connaissez
autre
bien.
Autre Arménien,
absolument, et donc représentant d'Aznavour aussi.
Et de Placido Domingo.
Et de Placido Domingo. Oui. Non. C'est un. C'est un
grand manager.
Très grand manager. C'est lui qui a, donc, aujourd'hui, les destinées d'Alagna. Et nous avons dîné plusieurs fois ensemble. Et je trouve que c'est vraiment la génération montante.
Ça sera un personnage pour vous, Roberto Alagna.
Oui. Jeune, fantastique.
Un physique.
Il a tout.
Avec près de lui une femme qui
et
est
une
également
femme
une
qui
cantatrice,
est, oui,
Angela Giorgio.
Grand talent, ouais. grand.
Alors vous avez choisi l'air de Don Carlos de Verdi, l'acte 1, et l'orchestre de Paris est dirigé par Antonio Papano, Roberto Alagna.
Thank you.
L'air de Don Carlos, de Verdi, l'acte 1, l'Orchestre de Paris est dirigé par Antonio Papano, et celui que vous souhaitiez entendre, Henri Verneuil, Roberto Alagna.
Oui.
Nous voilà arrivés vraiment à la boucle, au final de notre conversation, qui aura duré 3 heures, sur France Culture, France Inter avec Henri Troya, et puis ici sur France Musique. Et je vous vois aujourd'hui plutôt entraîné par la veine littéraire que par la veine cinématographique.
Pour l'instant, j'ai fini un livre, donc je m'occupe de la sortie de ce livre. Mais très vite, j'oublierai ce livre. Et puis
c'est votre premier roman, parce que Mérig, c'était plutôt une chronique familiale.
Oui, c'est ça, voilà.
Autobiographique.
Oui.
Et vous aviez envie de vous replonger dans un roman ?
Je ne sais pas, mais c'est... Je vous assure que mon bonheur, c'est de ne pas savoir, de ne pas programmer et de vivre selon ce que j'ai envie de faire demain.
Oui, mais un film, ça se prépare si vous voulez.
Ah non, mais je commencerai à ce moment-là. Si je décide de faire un film, je commencerai à le préparer.
Vous avez déjà le projet ?
Un projet, oui.
Un polar, je crois.
Oui, un polar des années 50, mais je suis pas
auteur français, auteur américain ?
Américain.
Pourquoi les Français n'écrivent pas bien ?
Non, je sais pas pourquoi. Ils écrivent très très bien dans d'autres, mais le polar, en principe, a ses lettres de noblesse du côté anglo-saxon. Oui. Mais enfin, il y a de très très bons polars aussi français. Ils sont beaucoup plus forts dans ce domaine, me semble-t-il.
Henri Verneuil, merci. Je rappelle le titre de votre premier roman, Le Cheval Vartan, l'histoire de cet homme parti de rien qui devient multimilliardaire et qui ensuite, comme beaucoup d'autres, comme Howard Hughes, comme Paul Getty, comme les Kennedy, comme Gulbenkian, vraiment a une fin qui n'est peut-être pas tout à fait heureuse.
Pas du tout.
Il est entouré d'une famille qui n'est pas tellement convenable.
Parce que l'argent et l'or pourri. À ce niveau,
l'argent pourri.
Oui.
Le titre, Le Cheval Vartan, ce livre paraît chez Plon. Merci mille fois, Henri Verneuil.
Merci à vous.
Sur cette valse de Khatchatourian s'achève Règle de Trois, une émission de Jacques Chancel qui avait pour invité le cinéaste Henri Verneuil sur les ondes de France Musique en mai 1997. Cette archive est disponible à la réécoute et au podcast sur le site francemusique.fr à la page des trésors de France Musique. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Béatrice Trichet pour la réalisation, avec Stéphane Poitevin à la prise de son, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.